Work in process, c'est une façon de se réinventer, de réinventer le monde du travail, de se dire qu'on peut bosser moins et mieux, qu'il n'y a pas de règles en la matière, qu'on peut développer son business en prenant soin de soi et que souvent, si on veut faire grandir l'un, il faut travailler sur l'autre. Ici, je vous partage des étapes, des méthodes, des outils, des réflexions, en bref, des process pour créer la croissance que vous voulez en respectant qui vous êtes. Salut au fait, moi c'est Marino Barré. J'adore parler de santé mentale, psychologie, neurosciences, organisation pour les entrepreneurs. J'aime parler de croissance saine, de transformation des entreprises pour un monde pro meilleur, plus joyeux et plus chaleureux. En bref, parler d'entrepreneuriat respectueux de qui vous êtes. Ça vous parle ? Alors abonnez-vous à Work in Process et surtout, écoutez bien l'épisode jusqu'au bout. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, j'accueille encore une fois, vous allez me dire, un copain entrepreneur qu'on connaît tous et toutes parce qu'il fait partie des programmes de formation en ligne les plus reconnus du marché. Est-ce que vous devinez qui c'est ? Bon, je ne vais pas attendre trop longtemps. Cet invité, c'est Raphaël Thorel. Salut Raphaël, comment vas-tu ?
Salut Marine, ça va super bien. Je suis très heureux et qu'on se retrouve et qu'on puisse échanger sur ce beau sujet qui nous attend aujourd'hui.
Eh bien, moi aussi. Alors, bon, il y a quand même des personnes qui ne te connaissent pas, Raphaël. Est-ce que, rapidement, tu peux nous dire qui tu es ?
Qui je suis ? Vous avez 6 heures. OK. Qui je suis ? Je peux te dire que je coach des entrepreneurs depuis 2018, donc depuis 5-6 ans à peu près, à la fois dans des programmes de formation pour entrepreneurs, débutants puis plus avancés maintenant, dans des masterminds qui regroupent des entrepreneurs également, et surtout dans ma pratique à moi, où j'accompagne des entrepreneurs à divers stades d'avancée de leur projet, avec un fort focus sur leur mindset, sur leur identité, sur leurs croyances, sur qui ils sont, pour leur permettre non pas juste de faire grandir leur business, mais surtout de devenir et d'exprimer pleinement la personne qu'ils ont envie d'être à travers leur travail et à côté aussi.
J'adore. Tu permets aux entrepreneurs finalement de créer la vie qui va les nourrir, qui allume leur petite flamme intérieure, et ça sur Work in Process. On adore. Aujourd'hui, Raphaël, moi, je t'ai fait venir pour parler d'un sujet que tout le monde connaît, que je pense tout le monde vit, on verra, mais on va parler de comment comprendre et comment apprivoiser le syndrome de l'imposteur. Alors, si vous l'avez, ne fuyez pas, l'épisode va vous servir, je vous le promets. Première question que je fais dans tous les épisodes pour qu'on parte tous et toutes sur les mêmes bases, c'est est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le syndrome de l'imposteur ? Comment il se manifeste ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est un mélange de pas mal de choses, en fait. Mais c'est habituellement un doute qu'on peut avoir sur nos aptitudes ou nos compétences et un sentiment de ne pas mériter les succès, les victoires qui nous arrivent en les attribuant du coup à des causes extérieures. En se disant des phrases du genre « j'ai eu de la chance »,« c'est parce que j'étais au bon endroit au bon moment »,« c'est parce que cette personne m'aime bien », tout ce genre de choses-là. Et du coup, les pensées dominantes qu'il y a derrière, c'est que bah, on l'a échappé belle cette fois-ci et on avance un petit peu sans que personne se rende compte qu'on ne sait pas ce qu'on fait et qu'il y a bien un jour où on va être démasqué et où tout le monde va se rendre compte qu'en fait, on n'est pas du tout légitime pour faire ce qu'on fait, on n'est pas assez calé, on n'est pas assez compétent, etc. Donc, c'est un mélange de doutes de ses aptitudes et de cette sensation de ne pas mériter. Et du coup, ça peut se manifester de plein de façons différentes, en fait, selon les personnes. Soit par une peur de l'échec qui, du coup, paralyse et empêche de passer à l'action, soit par un perfectionnisme. Parce que si on se dit, ben, au moins, si j'essaie d'être parfait, les gens ne vont pas me griller et j'essaie de me blinder comme ça. Soit par une autocritique qui est très forte, cette fameuse manque d'aptitude à célébrer ses victoires dont je te parlais tout à l'heure, le fait de ne pas accepter les compliments quand on nous en fait et se dire « Ah non, mais non, tu sais pas, moi en fait, je suis nul, mais toi tu me félicites comme si j'étais bon et je savais ce que je faisais. » Bref, il a vraiment plein de visages.
Alors, on voit que finalement, il peut être partout, il peut être plus ou moins insidieux en fonction de votre situation. Moi, la question qui me tracasse, c'est est-ce qu'on peut s'en débarrasser ou est-ce qu'on est condamné à vivre avec toute notre vie ?
En fait, moi, je pense que la question, ce n'est pas de s'en débarrasser. Parce que c'est, en fait, c'est quelque chose de complètement normal, comme on va voir pendant cet épisode. La question pour moi, c'est plus d'identifier quelle situation déclenche ce sentiment. Parce que moi, en fait, on appelle ça syndrome de l'imposteur, et maintenant, on le voit à toutes les sauces. J'aime pas ce mot de syndrome, personnellement, parce que je trouve que ça pose une étiquette comme si c'était quelque chose de définitif. Tu vois, genre, ah, moi, j'ai un syndrome de l'imposteur, donc, trois petits points. Or, la réalité, c'est que c'est en fait des sensations et des émotions qui arrivent dans certaines circonstances et dans certains environnements, mais pas tout le temps. Tu vois ? Et c'est facile de prendre des raccourcis ensuite en se disant « j'ai pas confiance en moi, j'y arriverai jamais, quoi que je fasse, je manque de confiance », alors que ça, c'est faux. On a tous des zones de notre vie où on a plus confiance en nous que d'autres et où on doute moins que d'autres. Donc la question, c'est pas de s'en débarrasser, c'est de comprendre dans quelles circonstances est-ce qu'il survient, et ensuite de voir qu'en fait, il nous envoie juste un message. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème. On va rentrer direct dans le vif du sujet. OK. Il y a l'interprétation qu'on fait habituellement quand on ressent ce doute ou ce manque de confiance, c'est que le problème, c'est nous. OK. Si on se dit, il y a un problème avec moi, donc je ressens ce doute. Mais en réalité, le problème, c'est jamais la personne. Le problème, c'est juste l'interprétation qu'on fait du fait de douter. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a, on doute tous. Toi, moi et 100% des personnes qui nous écoutent, ça nous arrive de douter. Simplement, pourquoi est-ce que devant le doute, il y a certaines personnes qui avancent sans problème en se disant « j'essaye des trucs, j'arriverai, on verra bien » et d'autres qui sont paralysées par ce syndrome de l'imposteur. C'est parce qu'il y a une catégorie de personnes qui estiment que c'est normal d'avoir des doutes et que ce n'est pas un signe que je fais mal les choses ou qu'il y a un problème avec moi, et l'autre partie de la population qui interprète ce doute comme « ça veut dire que je ne suis pas légitime ». Sous-entendu, si j'étais complètement légitime, je ne douterais pas. Ce qui, évidemment, est faux. 100% des gens doutent. Tu vois, donc, c'est vraiment le cœur de la question. C'est l'interprétation qu'on fait de l'inconfort qu'on traverse.
Alors, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a d'un côté, on va généraliser. Par exemple, on parle du syndrome de l'imposteur, mais ça marche pour tout. Par exemple, les gens qui disent « je suis timide ». Vous pouvez être timide dans certaines situations, par exemple quand vous devez parler sur scène ou en public, mais quand vous êtes avec votre famille, avec vos enfants ou votre conjoint, votre conjointe, vous n'êtes peut-être pas timide. Donc ça, c'est la première étape. Et il m'est venu une idée à challenger peut-être avec toi, Raphaël, c'est il y a peut-être une troisième catégorie de personnes. C'est les personnes qui ont compris que effectivement, les doutes, c'est normal, c'est humain, c'est une émotion, mais que ça va les challenger. Elles vont se dire, OK, là, je doute, tu vas voir. Tu vas voir que finalement, ce doute, il n'est pas là. Il n'est pas là pour me freiner et je suis capable de le dépasser. Qu'est-ce que tu en penses ?
Ouais, moi, en fait, cette troisième catégorie de personnes, pour moi, je la mets en fait dans la première catégorie. Mmh. C'est-à-dire les gens qui se rendent compte qu'ils sont en train de douter et que c'est normal et qui utilisent ça davantage comme un vecteur de croissance, d'avancée, d'apprentissage que comme un frein. C'est-à-dire, en fait, pour moi, vraiment, la grosse différence, elle est là. C'est-à-dire, le fait de douter, il est inévitable. C'est comme le fait qu'il pleuve, de temps en temps, tu peux rien. La question, c'est qu'est-ce que t'en fais ? Est-ce que tu restes chez toi à pester et à te dire « ah bah zut, j'aurais aimé sortir » ou bien, est-ce que tu te prépares, tu te dis « ok, je sors avec mon parapluie, s'il me pleut sur la tête, c'est pas très grave, je m'en mettrai. » Tu vois ? Et j'utilise ça pour quand même profiter de mon après-midi. Donc, en fait, la vraie différence, elle est là. Elle est dans les inévitables moments où on doute. Qu'est-ce qu'on fait de ce doute ? Et est-ce qu'on l'interprète comme le fait qu'il y a un problème ou comme le fait que c'est quelque chose de totalement normal et que c'est un levier de croissance ? En plus de ça, c'est génial de douter. C'est génial de douter parce que le jour où tu as des certitudes, tu figes ton identité.
Ouais.
Or, le flow de la vie fait que tout est en perpétuel mouvement. Donc, plus tu apprends à embrasser ce mouvement et à aller avec, plus tu vis ta vie, disons, d'une façon qui est... c'est quoi le mot que je cherche ? C'est pas flexible, mais c'est... en fait, t'arrêtes de lutter contre le flot de la vie.
Tu lâches prise.
Ouais, tu lâches prise. Et t'acceptes qu'il y a certaines choses qui sont complètement hors de ton contrôle et d'autres qui sont dans ton contrôle, en particulier les croyances que tu nourris et les comportements qui ensuite vont avec. D'où l'importance d'aller à la racine de ce comportement et de nourrir des croyances qui sont plus utiles ou plus aidante que je n'ai pas confiance en moi et ça va se voir, je ne suis pas légitime, etc. Tu vois, c'est en allant à la racine de ces croyances et de ce qui les a générées qu'on peut créer un chemin qui est plus propice à son épanouissement.
Je sais que parmi les personnes qui sont en train de nous écouter, il y en a qui se disent « mince, je fais partie de la deuxième catégorie », donc celle qui interprète le doute comme quelque chose de péjoratif ou en tout cas de désagréable, et qui se disent « je suis fichu, je suis dans cette case et je ne pourrai pas en sortir ». Et ce que j'aimerais qu'on dise à ces personnes-là, tu me confirmeras Raphaël, c'est que en fait, être dans une situation ou dans une autre, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas définitif. En bossant sur votre mindset, vos croyances, votre comportement, etc., vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, bien sûr, changer de catégorie. Du coup, est-ce qu'il y a une méthodologie ? Est-ce qu'on a un process pour commencer à apprivoiser son syndrome de l'imposteur ?
On a un work in process même. On va pouvoir te le détailler. Alors, je ne te dirais pas que c'est un process, mais il y a plusieurs éléments que je peux donner aux personnes qui nous écoutent pour commencer à avoir des pistes. Juste pour l'anecdote, c'est quoi, c'est marrant. Toi et moi, on s'est connus il y a quelques années maintenant, oui. à travers une communauté d'indépendants de notre ami Thomas Burbidge, si ma mémoire est bonne.
Oui.
Et je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, j'avais fait une masterclass sur cette communauté qui s'appelait « Comment dépasser son syndrome de l'imposteur » ou quelque chose comme ça. Sachant qu'à l'époque, je n'avais quand même pas vraiment confiance en moi, mais que je me suis dit « Allez, je contribue imparfaitement à la conversation, on verra bien ce qui se passe, le doute c'est normal, ça me permet d'avancer. » Et je me faisais la réflexion aujourd'hui, juste avant qu'on enregistre, que cet épisode, c'est le 20e épisode de podcast sur lequel je suis invité. Donc c'est juste une parenthèse pour dire aux gens qui nous écoutent que c'est complètement possible de partir d'un endroit de manque de confiance et de petit à petit construire cette confiance avec l'expérience et avec des petites sorties de zone de confort. Donc ça, c'est déjà un élément que je peux partager, qui est que, en fait, la confiance, le manque de confiance en soi, qui est un des éléments constitutifs de syndrome de l'imposteur, on peut le travailler par de la théorie, par évidemment de la thérapie, par du coaching, etc., par mieux comprendre d'où ça vient, mais il n'y a que le passage à l'action et l'exposition répétée, et à petite dose et à de plus en plus grande dose, qui va permettre de muscler cette confiance en soi. Donc, un des conseils que j'ai, c'est de commencer avec des petites actions qui font un petit peu peur, mais pas trop, juste ce sweet spot entre « ça me challenge, mais je sais que je peux y arriver », et petit à petit, de voir ça comme un muscle qu'on développe.
Okay, ouais.
Ensuite, en plus de ça, moi, j'invite les personnes qui nous écoutent à se demander quelles associations mentales elles font avec le fait de se mettre en avant, de parler de soi, de célébrer ses victoires, etc. Parce qu'un des mythes qui sont les plus pernicieux par rapport au syndrome de l'imposteur, c'est qu'on se dit qu'on s'y accroche parce qu'au moins, ça me fait rester humble. Au moins, je garde les pieds sur terre. Et puis, au moins, ça m'aide à m'améliorer. Et puis, je ne deviens pas complaisant. Et puis, c'est quand même beaucoup mieux d'être humble que d'être arrogant, ce genre de choses. J'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent que c'est complètement faux, cette croyance. Parce que, en fait, ce que ça fait, c'est juste que ça fait se sentir anxieux dès qu'il s'agit de passer à l'action, et du coup, qu'on ne profite pas des choses importantes. Donc en fait, quand tu nourris cette croyance, tu n'es pas humble, juste tu te rabaisses, ce qui sont deux choses complètement différentes. Et le fait de mettre en avant ses talents, sa capacité à aider, son expérience, se mettre devant ses clients, avancer imparfaitement, ce n'est pas du tout de l'arrogance. C'est juste ce qu'il y a de plus propice à construire un business et une vie épanouissante. Donc déjà, si vous associez le fait de rester dans votre zone de confort et votre non-passage à l'action avec le fait de rester humble, faites attention à ça, parce que c'est complètement possible d'avancer d'une façon qui est totalement alignée et épanouissante, et de rester humble.
Je fais une parenthèse là-dessus, parce que je me suis rappelé une expérience que j'ai vécue il n'y a pas si longtemps que ça, au final, sur la modestie. Comme tu l'as dit, on se connaît depuis un petit moment, tous les deux, tu te rappelles peut-être de comment j'étais il y a quelques années de ça où je n'osais pas me mettre en avant. Bon, c'est encore un petit peu le cas, mais le podcast aide bien. Et ma croyance à cette époque-là, c'était « si je me mets en avant, on va penser que je me vante, que je suis prétentieuse, que je suis hautaine, bref, vous mettez tous les adjectifs que vous voulez. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je me sentais mal d'avoir cette croyance physiquement et psychologiquement. À un moment donné, je me suis dit bah, « en fait, je ne peux pas contrôler ce que les gens vont percevoir de moi. Je peux envoyer un message, mais en tout cas, côté réception, c'est comme quand vous appelez quelqu'un. Si la personne elle a un mauvais réseau là où elle est, ce n'est pas votre faute. » Donc, j'ai pris cette métaphore du réseau téléphonique, notamment français, pour me dire finalement que, en fait, je peux faire tout ce que je veux de la façon dont je veux. Il y aura au moins une personne qui le prendra mal. Mais il y aura aussi des personnes qui le prendront bien. Faut pas oublier ça. Donc, pourquoi je vous raconte ça? C'est tout simplement le fait de répéter des actions, petites ou grandes, ça dépend de votre goût du challenge, ça va vous apprendre à vous détacher aussi petit à petit de cette croyance que l'autre va me juger et je vais me sentir mal. Oui, l'autre va vous juger, probablement. Et vous n'êtes pas obligé de vous sentir mal à cause de ça.
Totalement d'accord. Et tu touches à un point qui est fondamental par rapport au syndrome de l'imposteur, c'est la peur de la critique. Parce que c'est évidemment, c'est ça qui freine souvent en se disant « Waouh, mais si j'y vais, si je poste ce contenu qui peut être un peu clivant, si je mets mes atouts en avant, professionnellement parlant, etc., je vais me prendre une volée de critique. » Moi, à chaque fois que je coach quelqu'un sur ce sujet, j'essaye de comprendre ce qui lui fait penser qu'être critiqué, c'est mal. Parce qu'en fait, là-dedans, il y a un élément vraiment important de réponse à comment apprendre à aimer son syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si toi, ça résonne, mais moi, je sais que personnellement, certains des plus gros épisodes de croissance dans ma vie personnelle et professionnelle, ce sont des moments où j'ai été critiqué. C'est-à-dire où soit ça a été des critiques un peu gratuites et pas constructives qui m'ont appris que, en fait, ce que tu viens de dire, à savoir quoi que je fasse, il y aura toujours des gens chez qui ça ne résonnera pas. Soit ça a été des critiques constructives qui m'ont permis d'identifier des angles morts, de voir des choses que je ne voyais pas, et du coup, de m'améliorer ou d'avoir une perspective plus complète de ce qui se passait. Donc, dès lors qu'on a un petit peu travaillé son rapport à la critique et qu'on comprend d'où ça vient, encore une fois, il y a plein d'outils, il y a des lectures, il y a des thérapies, il y a du coaching, tout ça, ça peut aider à comprendre pourquoi est-ce qu'on a aussi peur de la critique. Une fois qu'on a mis le doigt là-dessus, on peut se dire, en fait, être critiqué, c'est ce que je devrais rechercher. C'est ce que je devrais rechercher parce que ça m'enverra toujours des informations sur 1. Mon audience, 2. Moi-même, 3. Ma résilience et ma capacité à recevoir ce genre de critiques, etc. Et donc, si les gens qui nous écoutent se disent, au moins quand je reste dans mon petit coin, mon but principal, c'est de ne pas être critiqué, je vous invite à aller voir quels sont les inconvénients si terribles que vous percevez avec le fait d'être critiqué. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on a peur de quelque chose au final?
On
a peur de
pas.
Quelque chose, d'abord si on ne le connaît pas, absolument, et en plus, quand on a peur que quand cette chose arrivera, elle nous crée plus d'inconvénients que d'avantages. Donc, le jour où tu comprends qu'il y a autant, voire plus de bénéfices que d'inconvénients à être critiqué, ta peur de la critique, elle disparaît. Donc, en fait, c'est ce travail-là qu'il y a à faire pour pouvoir aller plus en confiance, se montrer, s'exposer, parler de ses talents, se mettre en avant, comme tu disais tout à l'heure.
Ouais, là, on a parlé de critiques extérieures. Mais il y en a une qui est plus insidieuse, qui peut-être même fait plus mal, et qui parfois est installée depuis plus longtemps que ça, c'est ce qui se passe en nous, notre critique interne. Et du coup, je voulais avoir ton point de vue là-dessus, parce que je sais qu'on n'a pas tous la même relation à son critique interne, mais parfois, quand il prend trop de place ou que sa voix elle est plus forte que notre envie, par exemple, de lancer une offre ou de se lancer dans un nouveau média ou alors d'aller contacter cet entrepreneur avec qui on rêve de travailler, concrètement, quel est le mécanisme qu'on peut mettre en place face à ce critique? Est-ce que c'est le même que pour un critique externe ou est-ce que c'est une méthodologie, un processus différent selon toi?
C'est une super bonne question celle-là et qui me permet juste de mettre un truc en lumière, ouais. Qui est que les gens qui ont peur de la critique ne se rendent pas compte que si ce n'est pas à l'extérieur qu'ils sont critiqués, ce sera à l'intérieur. C'est-à-dire que en n'allant pas vers ce qui vous épanouit, en n'allant pas vers ce qui vous nourrit, certes, vous vous dites que vous évitez les critiques extérieures, mais qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous vous autoflagellez pendant des heures et des jours et des années en mode « tu vois, tu n'y arrives pas, tu es nul, etc. » Donc, en essayant d'échapper à la critique, on se prend en fait une critique qui est beaucoup plus douloureuse. Donc, c'est juste important de voir ça aussi, c'est-à-dire que la tentative d'échapper à la critique, elle est complètement illusoire. Donc, c'est la première chose. Deuxième chose, un conseil que je donne moi souvent aux gens que je coach, c'est quand ils sentent cette voix autocritique, c'est de déterminer à qui elle appartient, cette voix. C'est-à-dire qu'on a l'impression que parce qu'elle est dans notre tête, elle est notre création. Mais la réalité, c'est que non. C'est-à-dire, quand tu vois un tout petit enfant, par exemple, qui n'a pas encore eu le temps qu'on lui rajoute toutes les merdes mentales qui font de nous des adultes névrosés, tu le vois être dans le moment, tenter plein de trucs, s'agripper à quelqu'un, faire un bisou, crier, être complètement dans le moment, sans peur de la critique. Pourquoi ? Parce que ça ne lui a pas encore été inculqué. Donc, si ça nous a été inculqué, c'est forcément par quelqu'un. Quand je dis par quelqu'un, ça peut être une personne ou ça peut être des organisations ou des systèmes. La société, l'entrepreneuriat, la famille, etc. Donc, la première chose, quand on identifie un discours interne qui a cette critique par rapport à nous, c'est de dire, OK, c'est la voix de qui me dit ça ? Est-ce que c'est la voix de mes parents qui me gronde pour que je réussisse ? Est-ce que c'est la voix de l'entrepreneuriat en ligne qui me dit « tu dois y aller plus fort, tu dois y aller plus dur, tu dois faire plus de chiffres sinon t'es nul » Est-ce que c'est la voix d'un ancien collègue avec qui on a eu un mauvais rapport hiérarchique ? Ça peut être plein de choses, mais déjà, c'est d'externaliser cette voix en se rendant compte que ce n'est pas parce qu'elle est à l'intérieur de nous qu'elle nous appartient. Okay ? Pour pouvoir ensuite symboliquement la rendre à la personne à qui ça appartient en disant « merci beaucoup, mais ça c'est à toi, pas à moi ». Et ensuite, moi, une image que j'aime bien, c'est imagine que tu veux te remettre en forme, par exemple. Tu t'es un peu laissé aller après les fêtes, on est encore en début d'année, tu te dis « ok, j'ai envie de me remettre en forme ». Donc du coup, je vais travailler avec un coach sportif. Si tu veux arriver à te remettre en forme et à y prendre du plaisir, tu peux travailler avec deux types de coachs. Il y en a un qui, à chaque fois que tu arrives à la salle de sport, va te hurler dessus, te dire à quel point tu es nul, te dire à quel point tu n'as rien à faire ici et de toute façon, tu n'y arriveras jamais, te gueule dessus pendant les exercices en te disant que tu ne le fais pas assez bien, te laisse en larmes à la fin, et puis en plus, t'envoie des WhatsApp entre tes séances pour juste te rappeler à quel point tu es nul et à quel point tu n'y arriveras pas. Okay ? Premier coach. Deuxième coach, qui t'accueille à bras ouverts à la salle, qui te dit qu'il est content de te voir aujourd'hui, qui te dit qu'il y a peut-être des exercices que tu vas mal faire, mais que c'est OK et que c'est comme ça que tu apprends, qui t'encourage, qui te soutient, qui te montre tous les progrès que tu as fait depuis la dernière fois et qui, entre tes séances, t'envoie des messages en te disant « tu vas y arriver, continue, tu es sur la bonne voie ». Avec lequel est-ce que tu préférerais travailler ?
Ah ben, le deuxième, sans hésiter.
On est d'accord. Ce qui se passe avec notre voix interne, c'est que notre voix interne, c'est le premier coach. C'est-à-dire, c'est celui, enfin, je dis ça, c'est pas une fatalité, mais par défaut, c'est celui qui va prendre le dessus. C'est celui qui nous critique, qui voit tout ce qu'on fait mal, etc. Donc, ce qui est important, c'est de réaliser qu'on a toujours un ange et un démon à l'intérieur de nous. Le démon, il crie plus fort. Il crie plus fort et c'est à lui qu'on fait attention. C'est des réflexes. Donc, le process, pour moi en tout cas, c'est non pas d'essayer de supprimer ou de réprimer le démon, parce qu'il est aussi là pour nous mettre en garde contre ce qui perçoit être un danger. J'insiste sur perçoit. Hein. C'est le fruit de millions d'années d'évolution. Hein. C'est comme ça qu'il fonctionne notre cerveau.
Tout à fait.
C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on a appris à avoir peur de danger. À l'époque où tu te faisais courser par un tigre, c'était plutôt pas mal d'avoir une amygdale assez active et de savoir identifier les dangers. Sauf que notre cerveau, qui est surstimulé, il a été entraîné maintenant à avoir des dangers partout. Et donc, le petit démon, c'est ça qu'il fait. Il s'active comme une alarme trop sensible à chaque fois qu'il perçoit un danger. Sauf que se faire bouffer par un tigre et se prendre un commentaire désagréable sur Instagram, c'est quand même pas vraiment le même niveau de danger. Et donc, moi, ce que je recommande, c'est toujours de contrebalancer le discours du démon avec le discours de l'ange qu'on a à l'intérieur, c'est-à-dire du deuxième coach. Et si c'est trop difficile, vous pouvez penser que cet ange, c'est soit un très bon ami qui vous connaît bien, soit une personne qui vous aime et vous respecte, en vous disant « Ok, j'entends ce que dit le démon, mais cette personne-là qui m'aime et qui me respecte, si je lui exposais la situation, qu'est-ce qu'elle me dirait tout de suite ? Est-ce qu'elle me parlerait aussi mal ? Est-ce qu'elle me traiterait comme de la merde, comme ça, comme je suis en train de le faire ? Il est probable que non. Donc, de même que j'ai donné une voix au démon et que je lui dis « Ok, merci beaucoup, je t'entends », de même, je choisis de donner une voix, voire un prénom, si ça vous aide, à l'ange, pour permettre de juste faire redescendre un petit peu. Et accepter qu'il y aura toujours ces deux parties de nous, celle qui nous critique et celle qui nous soutient. La question, c'est à qui est-ce qu'on fait le plus attention ? et à qui est-ce qu'on donne la voix la plus forte. Et ça, c'est toujours, toujours, toujours un choix. Toujours.
En bref, la moralité de cette histoire passionnante, c'est choisissez qui vous recrutez, même à l'intérieur de vous, parce que bah, ça peut vous faire aller très loin ou ça peut vous freiner très fort aussi. Moi, j'aime beaucoup cette exploration des différentes formes de critiques, finalement, parce que ça permet de mieux les comprendre. J'aimerais beaucoup qu'on creuse les sujets de tout ce qui est la peur de l'échec, la peur de la réussite, etc. Mais je pense que ça peut faire un épisode à part, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire dessus. Et si t'es OK, Raphaël, et que l'épisode vous a plu, faites un maximum de bruit sur les réseaux sociaux, augmentez le nombre d'écoutes, comme ça on fait revenir Raphaël pour faire un épisode justement sur la peur de la réussite et la peur de l'échec. En tout cas, moi j'ai pris des notes et je sais maintenant qui je vais recruter à l'intérieur de moi.
Génial. Et si t'as déjà recruté le démon parce que ça fait très longtemps qu'il est avec toi, c'est OK de juste lui dire, tu sais quoi, merci, je t'entends, je t'écoute, je choisis juste de faire attention et de prêter attention à ce que me dit le nouveau stagiaire qui vient d'arriver et qui est vachement plus sympa.
C'est ça. Laissez une chance aux stagiaires parce qu'on ne sait jamais, des fois, il peut y avoir des pépites. Petite parenthèse RH fermée. Mais en tout cas, je suis ravie de cet épisode. Je pense que ça vous a donné déjà des pistes de compréhension si jamais vous vivez un syndrome de l'imposteur sur d'où est-ce qu'il peut venir, sur comment on peut commencer à l'apprivoiser. Et encore une fois, je vous ai dit, faites un maximum de bruit si vous voulez que je fasse revenir Raphaël pour la suite de l'épisode.
Ce sera avec grand plaisir. Écoute, si c'est OK pour toi, il y a juste un truc qui vient de me venir en tête, qui va prendre 30 secondes, mais qui me semble vraiment important de partager. Ouais. Parce que moi, c'est une prise de conscience qui m'a vachement aidé sur mon chemin de confiance en moi et d'apprivoiser ce syndrome de l'imposteur. C'est que les situations où on le ressent le plus, moi, ce que j'observe, notamment chez les personnes que j'accompagne, c'est que c'est des situations où on promet ou on dit qu'on peut délivrer des choses dont on n'est pas complètement sûr qu'on peut les délivrer. Tu vois, on voit beaucoup ça dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne, par exemple. Et moi, pour te donner mon exemple à moi, au début, je marketais beaucoup mes services de coach comme, en gros, je synthétise, mais je t'aide à faire grandir ton business, okay, à travers le mindset, à travers le travail sur tes croyances, etc. Mais il y avait toujours un truc qui ne résonnait pas et qui était un peu tendu en moi quand je pensais à ça, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, c'était que moi, je peux aller jusqu'à un certain point, mais je ne peux pas m'engager à faire grandir un business. Parce que ça dépend aussi de ce que fera le coaché, du travail qu'on fait ensemble. Et donc maintenant, de plus en plus, quand on me demande ce que je fais, ce que je dis, c'est que j'aide des entrepreneurs à avoir une meilleure conscience et connaissance et amour d'eux-mêmes pour identifier les mécanismes qui sont à l'œuvre et qui les freinent sur leur chemin et qu'ensuite, ils puissent emmener leur business dans la direction qui leur convient. Parfois, c'est grandir, parfois, c'est ralentir, etc. Mais pourquoi est-ce que je me sens complètement à l'aise avec ça et je sens zéro syndrome de l'imposteur? Parce que ça, je sais à 100% que cet éclairage, je peux le délivrer. Et donc, du coup, j'ai aucun problème à communiquer dessus et à me mettre en avant parce que je sais que je peux. Alors que plus je vais vers des choses dont je ne suis pas certain que je peux les délivrer, plus je vais ressentir ce syndrome. Donc, si vous ressentez ça aussi, demandez-vous, est-ce que dans les promesses et les discours que vous faites, il y a des choses que vous dites pouvoir garantir ou délivrer qui ne sont pas le cas? Et si oui, je vous invite à les retravailler parce que c'est aussi ça qui vous donnera confiance en votre capacité absolue à délivrer ces choses-là et donc à agir.
Et ça n'enlèvera en rien à la valeur de ce que vous pouvez proposer à vos clients, à votre audience, à votre communauté. Simplement, ça vous réalignera, si je dis bien le terme, ça vous réalignera à ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez aussi faire, c'est important, et à ce que la personne en face de vous peut avoir besoin, tout simplement.
Absolument. Et ça responsabilisera cette personne qui est en face de vous, en lui faisant comprendre que ce que vous offrez, ce n'est pas une solution miracle, c'est des moyens, c'est des outils, c'est des clés qui aident à atteindre un certain résultat dès lors que votre interlocuteur fait aussi sa partie du travail. Et ça, c'est un gros cadeau que vous lui faites.
Et c'est important de le rappeler parce que quand on fait de la prestation de service, j'ai l'impression que beaucoup se mettent la pression sur « il faut que je crée du résultat, absolument, il faut que j'ai une promesse avec des chiffres, par exemple, je te fais gagner 4 heures de temps de travail par semaine ». Mais comment est-ce que concrètement, on peut s'assurer de faire gagner 4 heures à tout le monde? Peut-être que déjà tout le monde ne veut pas gagner 4 heures, mais en plus de ça, c'est aussi de se dire, bah, en fait, moi, je te donne des outils qui fonctionnent. Et c'est ta responsabilité derrière de les mettre en place. Je ne peux pas faire le travail à ta place. C'est une collaboration. Et comme dans une relation, bah, y a deux parties. Il faut que les deux parties fassent leur part du boulot.
Amen. J'ai rien à rajouter.
Du coup, bah, on va finir l'épisode là-dessus. Votre challenge de cette semaine, puisqu'il y en a toujours un maintenant en 2024 sur Work in Process, c'est déjà d'identifier si vous avez un syndrome de l'imposteur. Première étape. Si vous en avez un, c'est d'analyser d'où il peut provenir. Est-ce que c'est une peur de l'échec, de la réussite? Est-ce que c'est une peur de regard de l'autre? Bref, vous avez écouté l'épisode, donc vous savez vers quelle direction vous tournez. Et commencez à voir qui vous parle à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Est-ce que c'est le coach militaire expérimenté qui vous crie dessus? Ou est-ce que c'est le gentil petit stagiaire qui vient d'arriver et qui voudrait juste avoir un petit peu de place? À vous de voir. En tout cas, merci beaucoup, Raphaël, pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui, pour ce joli moment. Moi, j'ai adoré faire cet épisode et j'ai vraiment très envie qu'on en fasse un deuxième. Donc, je compte sur vous.
Ce sera avec grand plaisir. Merci à toi, Marie.
L'épisode t'a plu ? Tant mieux, je suis contente. Maintenant, en plus de relever le challenge que je t'ai posé cette semaine, tu as trois options. Si tu veux aider à faire découvrir Work in Process autour de toi, tu peux le partager à ton réseau, mais tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et lui laisser un avis positif. Si tu as envie de discuter avec moi, on se retrouve sur Instagram, LinkedIn ou même dans la newsletter 1% qui te donne chaque semaine des actions concrètes pour bosser sur ton business. Et comme ça, tu pourras me partager directement tes ressentis sur le sujet du moment. Merci encore pour ton écoute. Je te dis à très vite dans un prochain épisode.